Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique. Je vous propose ensuite un extrait d'un récit enchanteur avant de connaître les rendez-vous, éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. Début 2026. Premier résultat de l'étude scientifique intitulée « Rôle des infrastructures agroécologiques » dans la fourniture de ressources florales pour les pollinisateurs. Dans quel contexte se place cette étude et qui l'a financée? Qu'est-ce qu'une infrastructure agroécologique? Comment l'installation de ces dernières peut amoindrir le déclin des pollinisateurs? Y a-t-il des conditions à respecter afin de garantir la réussite de ces installations en plein champ? D'un point de vue technique, sur quoi cette étude se base pour étayer ses premiers résultats? L'Institut pour la transition environnementale a commandé il y a plusieurs années une étude pouvant éclairer sur la stratégie à entreprendre afin de préserver un maximum les populations de pollinisateurs dans nos paysages agricoles. À l'heure où les conditions agricoles sont au centre de l'attention et où les réglementations européennes sont remises en question, je vous demande de faire un pas de côté pour donner de l'oreille à de simples faits scientifiques. Dans cet épisode, comme dans de nombreux épisodes Feuilles de chou, je vais chercher à expliciter la moindre avancée scientifique de sorte à ce qu'un maximum de lumière soit faite sur ce que l'on apprend de vivant aujourd'hui et ce que l'on ignore encore. Les terres agricoles couvrent près de la moitié de la surface habitable terrestre. On connaît depuis plusieurs décennies un changement radical de nos paysages en lien avec l'activité industrielle, l'activité agricole intensive et les extensions urbaines diverses. Dans les Hauts-de-France, le changement est visible en quelques générations. Nos anciens qui vivaient alors dans des petits villages à l'intérieur des terres parlent encore de ces haies que l'on pouvait longer pour aller chercher ses vivres à la ferme d'à côté. Aujourd'hui, le regard est difficilement arrêté par des arbres ou des arbustes. Seules des éoliennes ou quelques bâtiments vont parfois rythmer un paysage de grande culture, traversé par une route, parfois bordé par quelques timides alignements d'arbres. Ces paysages simplifiés, dominés par les humains, participent au déclin de la biodiversité. Si en premier lieu, c'est l'usage des pesticides, les produits tueurs d'insectes qui compromet la survie des insectes pollinisateurs, on sait aussi que le manque d'habitat est un facteur majeur de leur déclin. Or, les objectifs affichés par les politiques de conservation pour y remédier sont peu étayés. Par exemple, comment définir la superficie minimale requise pour que les populations de pollinisateurs se maintiennent? La stratégie de l'Union européenne pour 2030 vise 10% d'éléments paysagers à haute diversité dans les zones agricoles. Idem pour la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, avec 10% de couverture naturelle dans les terres agricoles. Est-ce suffisant? Et la quantité d'habitats semi-naturels, les prairies, les haies, les forêts, ce qu'on appelle du coup les infrastructures agroécologiques, priment-elles toujours sur leur qualité dans ces milieux agricoles? Dans cette étude, en analysant près de 180 000 données publiées sur les abeilles sauvages et les sirfes, une famille de mouches, les deux groupes les plus importants en matière de pollinisation, mais aussi sur les bourdons et les papillons dans 19 pays, États-Unis et Europe, et 1250 sites d'observation. Gabriela Bishop, de l'Université de Wageningen, aux Pays-Bas, et Alice Michelot-Antalik, professeure en agroécologie à l'Université de Lorraine, apporte des premières réponses à ces interrogations. L'idée principale de cette étude est de savoir ce qui, de la quantité ou de la qualité des habitats, aura le plus de conséquences pour la préservation des pollinisateurs. Dans cette étude qui cible les pollinisateurs, les chercheurs définissent la quantité comme une proportion d'habitat semi-naturel dans un rayon de 500 mètres, autour de chaque site où les insectes ont été capturés. Pour ce qui est de la qualité, ils l'évaluent en fonction de deux mesures, l'abondance en fleurs et la diversité d'espèces fleuries. Gabriella Bishop et ses collègues ont ensuite modélisé par groupe de pollinisateurs comment le nombre d'insectes évolue en fonction de la quantité et de la qualité de l'habitat. Ils ont ainsi repéré un seuil d'habitat semi-naturel en zone agricole en deçà duquel, pour soutenir les populations, il est plus efficace d'augmenter la quantité d'habitat semi-naturel que leur qualité. Dit autrement, il est crucial dans un premier temps d'atteindre une certaine proportion d'habitat semi-naturel pour assurer la préservation de ces insectes. Au-delà de ce seuil, il est plus important d'améliorer leur qualité. Résultat, ces seuils sont très variables selon le groupe de pollinisateurs et la région. Dans les régions tempérées, comme les nôtres, le seuil est de 37% d'habitat semi-naturel pour les papillons, alors qu'il est d'environ 5,5% pour les cirfes, la fameuse famille de mouches. Cela signifie que les papillons sont des insectes très sensibles à la surface d'habitat semi-naturel, amenés à fortement décliner dans des paysages agricoles simplifiés et dominés par les grandes cultures. A l'inverse, les cirfes s'avèrent surtout dépendants de l'abondance et de la diversité en fleurs des habitats. Quant aux abeilles solitaires et aux bourdons, le seuil de quantité d'habitat semi-naturel à respecter est respectivement de 16 et 18%. À titre informatif, dans les régions tropicales, il est de 38% pour les abeilles tropicales, mais ces résultats sont à confirmer en raison du peu de données intégrées dans l'étude. Pour la majorité des groupes, on avait jusque-là noté une nette augmentation des pollinisateurs jusqu'à environ 20% d'habitat semi-naturel. Le fait que les seuils soient moins élevés pour bon nombre de pollinisateurs souligne l'importance de travailler sur la qualité de ces habitats, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. En France, la proportion d'habitat semi-naturel est variable en fonction des systèmes agricoles. Moins de 10% dans les paysages de grande culture et souvent plus de 25% dans les paysages de polyculture et élevage où dominent les prairies. Ce travail majeur a l'intérêt de fournir des éléments quantitatifs pour les politiques de conservation, conclut l'étude, même si cela pointe plusieurs limites, notamment pour la définition de la notion de qualité, qui par exemple ne prend pas en compte l'apport nutritif en matière de nectar et de pollen des différentes espèces de pollinisateurs. L'étude ne distingue pas non plus les différents milieux, alors qu'une haie ou une prairie ne contribuent pas de la même façon à la qualité de l'habitat. Retenons simplement qu'une couverture de 16% d'habitat semi-naturel pourrait efficacement soutenir les populations des principaux pollinisateurs. Cet objectif est bien au-delà des recommandations actuelles, mais pas non plus hors de portée, et qu'il faudra améliorer la quantité de fleurs dans nos paysages, qui est à l'heure actuelle très faible. Pour résumer toute cette étude, on aurait donc comme conclusion qu'il faut absolument plus de diversité d'habitats et d'espèces florales pour une surface d'a minima 16% de la surface totale menée en culture. Cela aura pour conséquence la préservation des espèces pollinisatrices et donc l'assurance de pouvoir les mettre à contribution des cultures. Actuellement, 10% de la surface en zone semi-naturelle est visée par les institutions pour 2030. On sait donc que ces objectifs sont toujours en deçà de ce que requiert le vivant pour subsister dans nos paysages les plus impactés. Se servir de chiffres pour appuyer le vivant, en voilà une drôle d'histoire. N'a-t-on jamais eu envie de se retrouver à nouveau à regarder quelques papillons batifolés ou de courir après une sauterelle bien aventurière? Tendons un instant la feuille au récit du jeune enfant que nous connaissons toutes et tous. À la faveur de l'été.
C'est une chaude, très chaude journée d'été. Aujourd'hui, je joue tout seul. Même mon grand frère est absent. J'entends chanter les cigales pendant que je cours vers les insectes de la vallée de Genji. Aujourd'hui, c'est sûr, je te trouverai et j'y arriverai tout seul. Au-delà des rails s'étend un océan de verdure. Attends-moi, grand scarabée, j'arrive! Devant les vaches, vite, j'accélère d'un coup. Pouah! Quelle odeur! Ça pue, ça pue! Phew! Enfin! Hop là! Tu es là, grand scarabée! Allez, j'essaie et réessaie. Et réessaie encore, sans jamais y arriver. Je grimpe de toutes mes forces, mais rien n'y fait. Ah, te voilà, te voilà, te voilà, mon grand scarabée. J'ai enfin réussi à te trouver, mon cher scarabée. Je suis tout mouillé, mais je m'en fiche, parce que, regarde, comme il est beau.
Certains préfèrent voyager à l'autre bout du monde pour y découvrir monts et merveilles, tandis que d'autres ont à cœur de s'évader en regardant les étoiles. Recréer une fascination pour le monde sous nos pieds passe parfois par une imagination d'un monde lointain. Un artiste essaye à imaginer la flore des exoplanètes. Vincent Fournier utilise pour y parvenir la photographie, la photogrammétrie, l'hybridation 2D-3D et l'animation immersive. Il a créé une série de photos intitulée « La flore des exoplanètes ». Flora Incognita. Elle fait partie de l'exposition Uchronie, qui parle de notre relation à la nature, à la technologie et aux imaginaires du futur. C'est une version alternative de l'histoire. Et si la vie sur Terre avait évolué d'une autre manière? Et si les animaux étaient doués de poésie? Et si on allait sur Mars en restant sur Terre? Dans ses histoires parallèles, il a voulu retrouver le plaisir de l'enfance et du jeu pour mettre en scène deux imaginaires du futur. L'exploration spatiale avec sa part de rêve et de mystère, et la réinvention du vivant par le prisme de la technologie et de la poésie. C'est un voyage dans un monde hybride, aussi entre réel, imaginaire, histoire et anticipation. C'est aussi une invitation à la contemplation, esthétique, de versions alternatives à notre monde. Des formes colorées, comme étiré par une force centrifuge qui transforme nos fleurs familières en curieuses reconstitutions. Jusqu'au 22 février, cette exposition sera visible au domaine de Chaumont-sur-Loire, où se déroule chaque année le Festival international des jardins. Le thème était l'année passée, il était une fois au jardin. Quelle version alternative à notre monde pourrions-nous encore imaginer ? L'une d'entre elles saura peut-être nous donner l'inspiration nécessaire d'un monde infiniment désirable.
Oui, nous sommes tous des fleurs dans le même bouquet. Des trèfles, des digitales et des orchidées. Oui, nous sommes tous des fleurs dans le même bouquet.
fleurs dans le même bouquet. Des trèfles, des dix.
Tu y as pêché où? Baobab, acajou.
Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une nouvelle feuille de chou, fraîchement cueillie.
Cyprès, peint des landes palissandres, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.